Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Regarder la France depuis l'étranger, tenter de comprendre ce que le monde voit de notre pays. Les visions sont-elles les mêmes selon que l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Hexagone? Poser la question, c'est y répondre. Mais cela mérite développement. Dans quelques semaines, les yeux du monde seront braqués sur Paris, hôte des Jeux Olympiques. C'est ce moment qu'ont choisi les journalistes Richard Verly et François d'Alençon qui, dans le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit aux éditions Grasset, brosse le portrait d'une France vue d'ailleurs. Ils ont interrogé 150 observateurs établis aux quatre coins du monde et font le constat d'un fossé entre la croyance de puissance de la France et son influence réelle. Ils sont nos invités. Richard Verly, correspondant France-Europe du média suisse Blick, après une longue carrière au Temps. Richard Verly qui a été basé à Bangkok, Tokyo, Bruxelles et Genève. Bonjour.
Bonjour.
Et François d'Alençon, grand reporter, spécialiste des questions internationales et ancien chef du service étranger du quotidien La Croix. Bonjour.
Bonjour.
Fiasco du contrat avec l'Australie sur les sous-marins, débâcle récente au Sahel, tête à tête avec Vladimir Poutine pour désamorcer la crise russo-ukrainienne et tenter de convaincre le locataire du Kremlin d'arrêter ses chars, visite du président chinois en France, laquelle France, classée pays le plus attractif pour les investissements étrangers, s'apprête donc à accueillir les Jeux Olympiques d'été 2024 avec les projecteurs du monde entier braqués sur elle. Des échecs, mais des succès aussi. Alors, le bal des illusions, le titre est fort, ce que le monde voit, ce que la France croit. Que voit le monde? Que croit la France? Est-ce qu'il y a vraiment des connexions, Richard Verly, entre la France et le monde extérieur?
D'abord, il y a une envie de France. Et vous citiez tout à l'heure le fait que la France reste le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement étranger. Je crois que ça révèle bien cette envie. Elle existe, la France est attrayante et peut-être que les Jeux Olympiques, s'ils sont réussis, vont lui permettre encore plus de redorer son blason. La difficulté, c'est que quand vous êtes attractif, vous créez de l'envie. Et à cette envie, il faut savoir répondre. Il faut savoir répondre par des moyens d'action et il faut surtout pouvoir tenir vos promesses. Or, quand vous vous éloignez de la France, quand vous sortez des frontières, quand vous interrogez des gens qui connaissent bien ce pays, tous reconnaissent qu'aujourd'hui, la France a de moins en moins les moyens de tenir ses promesses. Et donc, plus vous suscitez d'envie, plus vous décevez, moralité, le fossé devient très difficile.
Beaucoup de déceptions, François d'Alençon ?
Déception, je ne sais pas, mais il y a, ce que vient de souligner Richard, il y a cet écart grandissant entre les ambitions, les objectifs et les moyens. On le sait très bien, notamment sur le plan économique, sur le plan budgétaire. Si on prend l'exemple, par exemple, de la défense française, il y a un effort considérable qui a été initié par le président Macron dans la loi, à travers la loi de programmation militaire jusqu'à 2030. Or, tout le monde augmente en Europe et en fait, les limites budgétaires de la France vont être un facteur dans les années 2030 par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou la Pologne.
Parce qu'effectivement, les questions économiques, Richard Verly, elles sont évidemment très, très, très importantes. Avec, alors effectivement, une attractivité pour les investissements étrangers, mais la dette et les caisses sont vides. Vous citeriez la France comment? Dans une phase descendante ou une phase ascendante, Richard Verly?
Dans une phase où sa crédibilité est en jeu et où les arguments que le gouvernement français peut brandir sont quand même de moins en moins nombreux. En gros, vous avez aujourd'hui deux arguments pour la défense de la crédibilité économique de la France. Le premier, c'est l'attractivité que vous avez évoquée. Autrement dit, la France comme destination d'investissement plaît à des grandes entreprises, des grandes multinationales étrangères qui y voient un terrain favorable, d'autant plus que les 7 années de présidence d'Emmanuel Macron ont été marquées par des lois sur le marché du travail, sur la retraite, etc. Bref, une flexibilisation, si l'on peut dire, de l'environnement social qui convient bien à ces multinationales. Ça, c'est le premier argument. La France est donc attractif. Le deuxième argument, c'est de dire que la France est encore un marché non négligeable, important, qui peut bien évidemment intéresser beaucoup d'entreprises. Une fois que vous avez dit ces deux choses-là, là, les problèmes commencent. Le problème commence en matière de finances publiques, vous venez d'en parler. Le problème commence en capacité à se réformer. On voit bien qu'à chaque réforme, le pays est sans dessus dessous et que l'ébullition sociale est importante. Et enfin, problème au niveau européen, parce que ce que la France propose aujourd'hui, c'est à nouveau d'emprunter. Emmanuel Macron l'a dit lors de son discours Sorbonne 2, emprunter pour les dépenses de défense. Est-ce que d'autres pays européens ont envie d'emprunter aux côtés de la France, alors que la France est de plus en plus endettée? Donc vous voyez bien que très vite, quand on rentre dans le concret, la crédibilité économique de la France est en cause. Pour l'instant, les agences de notation financière n'ont pas bougé. C'était récemment fin avril. Mais on sait pourquoi. Parce que l'administration française ramène de l'impôt. Parce que la France paie ses dettes, mais ramener de l'impôt, c'est aussi augmenter la pression sur la population et décourager d'une certaine manière beaucoup d'initiatives.
Alors, vous avez parlé de la crédibilité de la France. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a finalement, avec ce que vous avez dit l'un et l'autre jusqu'à présent, un problème de confiance, François d'Alençon ?
Bien sûr, il y a un problème de confiance. Ce n'est pas simplement l'économie, l'endettement public, le déficit commercial. Il y a un déficit de confiance politique. Politique, pourquoi ? La France telle qu'elle est, qui revient de la crise des Gilets jaunes, qui revient des émeutes de banlieue, d'une part, c'est un aspect important pour nos partenaires européens ou occidentaux ou ailleurs. Par ailleurs, il y a l'incertitude politique qui pèse énormément pour nos partenaires européens, notamment les Allemands. Il y a des élections européennes. Ensuite, il y aura des élections présidentielles, parlementaires. Le premier parti de France, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Cette incertitude politique sur ce qui succédera à Macron pèse énormément dans la vision que nos partenaires européens, notamment, ont de la France.
Alors, incertitude politique, j'ai cette question, puisque vous avez parlé d'armement assez rapidement dans cette émission. Richard Verly, est-ce que l'Ukraine a été l'occasion d'occasions manquées pour la France, et si oui, lesquelles ?
D'abord, l'Ukraine a été l'occasion d'un retournement complet d'Emmanuel Macron. Or, quand vous faites un virage, je dirais, en épingle, à ce point, c'est-à-dire d'abord vous commencez par être le chantre de la négociation jusqu'au bout avec Vladimir Poutine dans l'espoir de le persuader, et puis ensuite vous changez complètement et vous devenez le premier opposant à Vladimir Poutine au point d'évoquer même le déploiement de troupes au sol si la dynamique du conflit devait l'exiger, c'est difficile à gérer. Quand vous faites un tel mouvement, eh bien d'abord vous déconcertez vos partenaires, parce que ceux qui dès le début disaient « il ne faut pas négocier avec Poutine », vous regardent et vous dites « ben on vous l'avait bien dit ». On vous avait bien dit que ce n'était pas la peine d'essayer, donc pas simple. Et puis ensuite, maintenant que vous voulez être l'opposant en chef et déployer éventuellement des troupes au sol, vos partenaires vous disent « vous êtes sérieux ou pas ? Vous allez vraiment y aller ?» etc. Donc vous avez une crédibilité de la parole française qui est en suspens. C'est jamais simple, quand on fait ce genre de virage, de persuader ses partenaires que votre position actuelle ne changera pas à nouveau demain.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Est-ce que la parole française est à dissocier de la personnalité du président de la République, Emmanuel Macron, François d'Alençon ?
Oui et non. Bien sûr, il y a des facteurs permanents, structurels, entre guillemets, qui tiennent à ce qu'on a dit déjà sur la situation de la France, ses moyens limités en budgétaire. Par exemple, sur l'Ukraine, nous ne sommes pas les premiers fournisseurs de munitions ou d'armement à l'Ukraine. Donc, il y a un écart entre la rhétorique et la réalité de ce que nous faisons, ce que nous apportons à l'Ukraine. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension personnelle, effectivement, puisque nous avons un président qui est très loquace, qui aime beaucoup les grands discours. Le dernier faisait 1h50. En France, c'est peut-être une tradition, mais à l'étranger, ça fait un peu flop. Qui, à l'étranger, a prêté attention, une attention soutenue au discours de la Sorbonne 2 ? Je doute que, outre-Atlantique, ou même chez nos voisins allemands, par exemple, que tout le monde était rivé sur sa télévision, sa radio, pour boire les paroles du président français. Et l'excès de paroles, l'excès de coups d'éclat, nuit à la crédibilité, c'est évident.
Alors, vous en parlez beaucoup, hein, évidemment, d'Emmanuel Macron, enfin beaucoup, en tout cas, vous lui accordez une place certaine. Évidemment, sur ce livre autour de la France, vous évoquez son exercice solitaire du pouvoir, vous faites l'écho de ce qui lui est reproché à l'étranger, c'est de jouer au-dessus de sa catégorie, un homme qui parle beaucoup mais qui agit peu. Il y a une certaine contradiction par ailleurs aussi, et vous le soulignez, Emmanuel Macron a plutôt une bonne cote dans les pays émergents. Alors, est-ce qu'il y a une rupture de perception selon où l'on se trouve dans le monde, Richard Verly ?
Alors, d'abord, il y a une réalité, c'est que le système français, le système politique étant extrêmement pyramidal, il est assez normal d'associer la France à son président. Pour répondre à votre question, c'est-à-dire quand vous interrogez à l'étranger sur la perception de la France, immédiatement, ça ramène au président de la République. Et ça, c'est spécifique à la France du fait de ses institutions. Parce que les observateurs, qu'ils soient diplomates, qu'ils soient hommes d'affaires, qu'ils soient journalistes, ils savent bien qu'en France, eh bien, le pays dépend du président. Et selon le président, le pays prendra telle ou telle orientation. C'est pas vrai de tous les pays. Il y a d'autres pays moins associés à la personnalité de son premier dirigeant. Et la deuxième chose, c'est que oui, Emmanuel Macron est apprécié, il faut le dire. Il est apprécié à l'étranger, souvent pour deux raisons. Et pas seulement à l'étranger lointain, vous dites les pays émergents, c'est vrai, mais même dans des pays proches, en Europe, il est apprécié. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est l'archétype du dirigeant français brillant. C'est au fond le dirigeant dont on est fier. Si vous n'êtes pas français, il est presque le président que vous aimeriez avoir. Il est jeune, il a des idées, il parle bien, il intervient sur la scène internationale, donc il fait envie comme dirigeant, comme figure. Ça, c'est très vrai dans les pays émergents, c'est très vrai en Asie, par exemple. Il est en gros le dirigeant avec lequel vous aimez être pris en photo. Voilà, c'est déjà pas mal. La deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron a quand même, et on y revient sur le plan de l'attractivité des entreprises, obtenu de réels résultats. Et vous avez maintenant tout un tas de chefs d'entreprises étrangers qui se sont réconciliés avec la France. Il y aura bientôt d'ailleurs ce sommet annuel Choose France, choisir la France. Il a réconcilié la France avec, disons, tout le gotha des multinationales, le monde de Davos, en quelque sorte. Sauf que, le monde de Davos, les Français ne l'aiment pas. Et là, vous avez ce fossé entre un président très globaliste, très mondialiste, et une opinion publique française qui, en gros, elle n'aime pas tellement les riches et pas tellement les multinationales. Donc, vous voyez, c'est difficile à gérer.
Alors, j'aimerais qu'on approfondisse sur la perception qu'a l'étranger d'Emmanuel Macron et de la France plus généralement. Richard Verly, puisque je posais la question de savoir les raisons pour lesquelles les pays émergents pouvaient apprécier particulièrement Emmanuel Macron, il n'y a pas seulement eux, mais tout de même, est-ce qu'il y a une différence de vision de la France et de son président selon que l'on se trouve en Union européenne ou dans le reste du monde, François d'Alençon ?
Bien sûr, il y a des différences, c'est évident. Si on prend par exemple le cas de l'Afrique, on a eu toute cette séquence au Sahel où les régimes militaires issus des putschs ont pris la France comme bouc émissaire et ils ont trouvé une audience auprès notamment d'une population jeune en utilisant ce slogan anti-français. Et là, il y a un cas spécifique lié à l'histoire coloniale. Bon, ça, c'est une chose. Ça n'a rien à voir, effectivement, avec l'Asie, par exemple, avec les États-Unis, où la France est vue de très loin et n'est qu'un élément parmi l'Europe. L'Asie, peut-être la France, l'image est liée à d'autres choses, à la gastronomie, à l'industrie du luxe, à la mode, donc au tourisme ou aux armements. Parce que c'est un peu les deux faces de la brillance française, hein, c'est ça. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a une image ou une vision uniforme de par le monde de ce grand pays hexagonal.
Alors l'amplification du sentiment anti-français en Afrique, vous avez un chapitre que vous avez intitulé « Abandonner le casque blanc ». Est-ce que vous pensez, Richard Verly, que la colonisation demeure un tabou et un boulet ? Et pourquoi finalement un tel désamour de la France en Afrique ?
Alors oui, la colonisation demeure un tabou qui pèse lourd dans la politique française et dans l'image de la France, notamment En Afrique, ce n'est pas du tout le cas, par exemple, dans l'ancienne Indochine, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui l'Asie émergente. Là, je dirais, le fantôme colonial a disparu, largement pour des raisons de distance géographique, tout simplement, et aussi parce que ces pays, si vous prenez le Vietnam, le Cambodge, le Laos, c'est surtout vrai pour le Vietnam, sont des puissances économiques à part entière désormais, et qui voient la France comme un éventuel client ou un éventuel partenaire, mais une relation tout à fait décomplexée. Ce n'est pas le cas en Afrique pour les raisons qu'on connaît, parce que le développement économique, même si l'Afrique est prometteuse, eh bien, ce développement n'est pas au rendez-vous, parce que la France y a gardé pendant très longtemps des liens, on va dire, obscurs, complexes, qui ont entretenu à la fois l'attachement, le désamour, la jalousie, la frustration, et puis surtout parce que les opérations militaires, finalement, n'ont rien réglé. Elles ont bloqué, on le sait, l'avancée djihadiste à un moment donné, mais elles n'ont rien réglé des problèmes de gouvernance. Mais, encore une fois, si vous allez en Afrique, que ce soit au Sahel ou dans d'autres régions, vous voyez bien que l'attachement, et je le répète, l'envie de France est toujours là. La France n'est pas détestée. Elle est simplement jugée soit comme un pays qui a abandonné ses protégés africains. Donc, toute une partie de l'élite africaine en veut à la France parce que, bien, hier, cette élite avait des visas, elle était en cours à Paris. C'est plus le cas aujourd'hui. Et la jeunesse, elle voit bien que la question de la migration est devenue une espèce de plus qu'un tabou. Là, c'est devenu un réel problème, puisque ces jeunes, même quand ils sont formés, alors qu'on leur a dit qu'il fallait s'éduquer, quand ils frappent à la porte de la France, eh bien, la porte, elle est de plus en plus fermée à double tour. Donc, des deux côtés, tant du côté des élites que du côté de la jeunesse, vous avez un fossé qui est le fossé d'une France qui, malheureusement, n'a pas les moyens aujourd'hui de l'influence qu'elle prétend avoir et n'a pas la générosité qui devrait aller avec son influence.
La France, alors, vous parliez de ces jeunes, notamment musulmans, qui eh bien, ne voient pas de porte de sortie en France et qui préfèrent aller travailler qui à Dubaï ou ailleurs aux Émirats Arabes Unis pour y faire carrière. Le manque de moyens, c'est ce qui ressort beaucoup dans la conversation que nous avons jusqu'à présent. Est-ce que finalement, et je l'évoquais quand je disais que Emmanuel Macron se voit reprocher de jouer au-dessus de sa catégorie, la France se voit toujours comme une grande puissance, François d'Alençon ?
En tout cas, nos dirigeants politiques, notre classe politique utilisent toujours le mot. Que les Français eux-mêmes le pensent, je pense qu'ils sont beaucoup plus réalistes que ça et qu'ils ont une vision plus proche de la réalité.
Et la réalité, c'est quoi aujourd'hui ?
C'est-à-dire la France, puissance moyenne, comme tous les pays européens. Je veux dire, le poids économique, le poids démographique sur la planète de la France ne permet pas de nous décrire comme une grande puissance à l'égal de la Chine ou des États-Unis. D'où l'ironie de ce slogan de la troisième voie. Pour revenir à la question, c'est la classe politique qui reste un peu figée sur cette rhétorique et c'est l'absence de débat au sein de la classe politique, de débat en France sur ce que devraient être les choix stratégiques de la France, sur la politique extérieure de la France. Et là, je dois dire, je pense que le président Macron a eu il y avait un aspect très positif dans le discours récent à la Sorbonne et l'interview qu'il a donné après, puisqu'il a lancé un débat sur la dissuasion et sur la dimension européenne de cette dissuasion. Et là, pour une fois, il lance un débat, mais c'est un débat qui devrait commencer en France. Et on a immédiatement eu une levée de bouclier des forces politiques françaises en critiquant le président, à mon avis, à tort, que ça soit les Républicains, la France insoumise ou le Rassemblement national. Donc on voit la difficulté de notre classe politique à débattre sur les choix stratégiques de la France et à se réfugier en permanence derrière un gaullisme fantasmé qui revient à faire revenir la France dans les années 60. La France des années 2020 n'est pas celle des années 60. De Gaulle avait assaini les finances publiques avec le plan Rueff et le monde autour de lui n'était pas le même. C'était le monde de la guerre froide, le monde des blocs homogènes. C'est terminé. Donc tout est à revoir. Il y a un déficit de débat et de choix stratégiques. Le modèle français de politique étrangère et le modèle stratégique français est à revoir. Et c'est Un des points positifs du discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a lancé le débat, en tout cas sur la place publique, concernant la dissuasion et sa dimension européenne.
La dimension européenne de la dissuasion, effectivement, offrir à nos partenaires européens le parapluie français, puisque la France est aujourd'hui le seul pays avec la dissuasion nucléaire en Union européenne. On parlera de diplomatie, bien sûr, avec vous, Richard Verly et François d'Alençon, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Nous retrouvons nos invités, Richard Verly, correspondant France-Europe du média suisse Blick, après une longue carrière au Temps, et François d'Alençon, grand reporter spécialiste des questions internationales et ancien chef du service étranger du quotidien La Croix. Il publie Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. Nous allons parler diplomatie. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur la notion de puissance, dont la France, bien sûr, s'enorgueillit. François d'Alençon en a parlé, la dissuasion nucléaire. Il y a aussi notre siège de ce fait de la dissuasion nucléaire au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, par ailleurs, sixième puissance mondiale, avec une présence grâce à ses outre-mer sur les cinq continents, ce qui contribue probablement à ce décalage entre la vision que nous avons de nous-mêmes et puis la réalité aujourd'hui. On l'a dit dans la première partie de l'émission, ce manque de moyens dont la France dispose aujourd'hui. Richard Verly, pour avoir une diplomatie, il faut être économiquement fort. Votre regard sur la diplomatie française?
D'abord, elle doit gérer un déclin ou en tout cas une pénurie de moyens. Si vous parlez aux diplomates français, ils vous le disent tous. C'est-à-dire que la diplomatie doit faire plus avec moins, ce qui n'est jamais simple, face à des pays comme la Chine qui, eux, font plus avec plus, voire faire plus avec beaucoup plus. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les diplomates français, la diplomatie française en général, eh bien, souvent, ils se sont transformés en vendeurs de produits français. On leur a beaucoup demandé de devenir les adeptes de la diplomatie économique, notamment de vendre des armes. Ça veut quand même dire, quand vous vendez des armes et du luxe, puisque ce sont en gros les deux choses que la France a à vendre aujourd'hui, d'un côté de l'armement, de l'autre des produits de luxe, eh bien, vous le faites dans un certain nombre de pays qui, par ailleurs, vous posent des problèmes. C'est-à-dire, vous êtes obligé de courtiser la Chine, vous êtes obligé de courtiser les pays du Golfe, vous étiez hier obligé de courtiser la Russie parce qu'elle a des oligarques. Donc, je dirais, la nature économique de la France la pousse aujourd'hui à être très indulgente vis-à-vis de puissances qui, ensuite, dans le concret de son action politique, aux Nations Unies ou ailleurs, ne sont pas sans lui poser de gros problèmes. Donc, à mon avis, voilà un écueil. J'ajoute un troisième écueil qui est que par ailleurs vous avez fait des promesses dans le passé quand vous êtes la France, notamment l'élargissement du Conseil de sécurité puisque la France y a adhéré, mais on ne voit rien arriver. Donc il va falloir à un moment donné tenir là aussi les promesses et la France va devoir dire si elle est vraiment sérieuse quand elle propose que d'autres pays deviennent des membres permanents du Conseil de sécurité. Au-delà de ça, il reste un réseau diplomatique extrêmement important. C'est une chance. Et puis, il reste une action culturelle qui a un impact sur le terrain. Mais là, ça pose toute la question de à quoi sert la francophonie aujourd'hui. On pourra en reparler. Oui. Ce n'est pas si simple.
Ça faisait partie de mes questions. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit à l'instant, Richard Verly. Vous parlez donc de cette notion d'indulgence, la France trop indulgente, avec peut-être aussi ce sentiment de confusion sur notre positionnement qui émane de nous. Et vous ne l'avez pas mentionné, la question des droits de l'homme, dont il nous est critiqué et reproché aujourd'hui de ne pas la mettre suffisamment en avant. Donc la France, pays où la Charte des droits de l'homme a été signée. François d'Alençon.
Oui, je pense que c'est assez récurrent, en tout cas sous la Ve République. Il y a toujours une contradiction entre l'action diplomatique française et la prétention à incarner la patrie des droits de l'homme. C'est comme disait Badinter, la France est le pays de la déclaration des droits de l'homme, mais pas la patrie des droits de l'homme. Donc, cette contradiction qui existe depuis toujours continue, et je ne sais pas si c'est propre à la France. Le problème, un peu, c'est que nous avons surjoué, enfin, en tout cas, les présidents sous la Ve République ont surjoué l'instrument militaire, en tout cas, depuis la fin de la guerre froide, l'instrument militaire au service de la politique étrangère française. l'utilisation de l'instrument militaire, notamment en Afrique, mais pas seulement, en Afghanistan, au Moyen-Orient, etc. Donc, on déployait des forces à l'appui d'une diplomatie. Ça, c'était l'instrument privilégié. Et d'autre part, les ventes d'armes, les contrats d'armement, puisque la défense française et l'industrie d'armement française reposent en grande partie sur les exportations. Sinon, elle n'est pas viable, cette industrie. Donc, ces deux instruments, on arrive à une période stratégique, à un environnement international où ces deux instruments perdent un peu, en tout cas le premier, l'interventionnisme, le déploiement de forces à l'extérieur, perdent son intérêt. Et on n'est plus à l'époque des interventions extérieures, des casques bleus, etc. Donc tout ça perd de son impact et la France se retrouve un peu démunie dans le nouvel ordre international qui se profile. Nous avons joué également la carte du multilatéralisme. Ce multilatéralisme qui était censé faire une place à la France. Depuis longtemps, les présidents français appellent de leur vœu un monde multipolaire. Le monde multipolaire est là. Il y a les puissances émergentes. Le jeu de la France n'est pas du tout facilité. Au contraire, il se complique. Et donc, face à des puissances émergentes, je pense à l'Iran, je pense à la Turquie, je pense à des grandes puissances en devenir, l'Inde, pas seulement la Chine et les États-Unis. Voilà, donc le Brésil, etc. C'est un jeu multidimensionnel où les intérêts priment, où il y a un multi-alignement. On n'est pas à jouer entre les blocs. On peut s'allier avec un autre pays sur tel sujet, avec un autre sur tel autre, etc. Donc là, tout le jeu diplomatique de la France traditionnelle est à revoir et la France est un peu démunie et sans moyens. Son instrument diplomatique, effectivement, manque de moyens à l'heure où l'instrument militaire ne peut plus être utilisé de la même façon et doit se recentrer sur la menace russe.
Alors, on va approfondir sur cette question. France démunie, est-ce qu'elle est, d'après vous, la France, alors vous le dites dans l'ouvrage, hein, un pays qui est finalement assez dispersé, privé de boussole? On va parler de la relation avec les États-Unis et de la relation avec la Chine pour évoquer plusieurs choses, Richard Verly. D'abord, l'obsession anti-américaine en France. L'anti-américanisme, vous en parlez comme de la chose qui est la mieux partagée. Est-ce qu'on peut parler de spécificité française? Et François d'Alençon a plusieurs fois évoqué la notion de troisième voie avec la nécessité que Paris clarifie, s'aligne dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on est privé de boussole, Richard Verly?
En tout cas, la boussole est agitée et le Nord a tendance à sérieusement se déplacer, ce qui est quand même un problème. Je m'explique. Oui, il y a un anti-américanisme très profond en France, au sein de la classe politique notamment, c'est pas nouveau. Au sein de la population aussi, là, les États-Unis sont loin d'avoir la cote, même si, et c'est l'ironie absolue, si vous lisez les études, par exemple, d'un sociologue comme Jérôme Fourquet, il vous explique que la France est peut-être, en revanche, le pays le plus américanisé dans ses pratiques. On a adopté les centres commerciaux à l'américaine, on adopte maintenant la musique country qui fait des ravages en province, je cite l'étude de Fourquet, on a adopté, on est, je crois, le pays d'Europe qui compte le plus de fast-food à l'américaine, donc là, il y a une contradiction dans les termes. Mais au-delà de ça, c'est De Gaulle qui avait fait, au fond, de la distance avec les États-Unis, une sorte de point d'orgue de la politique française, tout en étant un allié fidèle de Washington. Ça devient difficile parce que ça pollue le climat politique et ça laisse croire qu'on pourrait prendre plus que ces distances, qu'on pourrait s'affranchir de l'alliance avec les États-Unis, ce qui est juste impossible et ce qui n'aurait pas de sens. Et c'est pour ça que toute une partie, vous l'avez remarqué, de la classe politique française, ce que moi j'appelle les nationaux populistes, rêvent même d'une France déconnectée de l'Amérique qui regarderait du côté de la Russie, voire d'autres puissances. Or ça, c'est juste impensable. L'intérêt de la France est d'être proche stratégiquement des États-Unis. On l'a bien vu que quand les États-Unis s'éloignent, c'est très dur à vivre pour la France. Ensuite, la deuxième question, c'est la question de l'Union européenne. Et elle va de pair avec les États-Unis. C'est-à-dire que la France défend, Emmanuel Macron vient encore de le refaire, l'idée d'une Europe puissance. Mais dans cette Europe puissance, la France n'a plus le poids qu'elle avait hier. D'abord, l'Europe n'est pas encore une puissance, on le sait bien. Et ensuite, l'Europe n'est plus française. Elle est beaucoup moins française qu'elle ne l'était il y a 20 ans.
Le centre de gravité s'étant déplacé très largement à l'Est.
Plus que le centre de gravité, les pratiques culturelles, intellectuelles, diplomatiques. Quand vous êtes dans une Europe à 27, vous ne fonctionnez plus de la même manière. Et donc là, il y a une difficulté qu'on ressent bien dans le débat des élections européennes qui se déroule en ce moment même. C'est-à-dire que les Français avaient accepté l'idée de l'Europe, notamment sous la présidence Mitterrand, parce que l'Europe était présentée comme un démultiplicateur de la puissance française. Ce que la France ne peut pas faire seule, l'Europe va lui permettre de le faire. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait évident, parce que la France est peut-être encore en avant-garde de l'Europe, mais elle n'en est plus le leader et elle n'a pas toujours la capacité à former les coalitions qui lui seraient indispensables. Donc quand vous avez un point d'interrogation autour des États-Unis, un point d'interrogation autour de l'Union européenne, ça fragilise quand même tout l'édifice.
Et alors la question de la troisième voie que vous avez évoquée, François d'Alençon, donc une clarification à trouver par Paris dans sa position dans la rivalité sino-américaine.
Oui, alors la troisième voie, c'est l'héritage pesant et indépassable du gaullisme fantasmé, parce que ça ne correspond plus à l'époque. La troisième voie indique deux blocs homogènes et la France qui proposerait une voie alternative. Bon, c'est un schéma qui est calqué sur la guerre froide et qui ne correspond plus à l'équation stratégique du moment. Alors ce terme est encore utilisé, notamment par Macron, surtout appliqué à l'Asie et à la Chine, sous le prétexte de ne pas s'aligner à 150% sur les États-Unis, ce qui est légitime. Les intérêts de l'Europe et des États-Unis par rapport à la Chine ne sont pas exactement les mêmes. Est-ce que, pour autant, il faut utiliser ce mot de troisième voie en s'adressant aux pays de l'Asie, en leur disant, ben voilà, nous vous offrons. On a bien vu les limites de cette politique avec l'Australie et l'affaire des sous-marins. On a bien vu que quand il s'agissait de sécurité par rapport à la Chine, par rapport à la menace chinoise, les Australiens, ils ont vite choisi. Ils ont choisi la garantie américaine. Donc, il faut savoir sur quel sujet on s'adresse. Et donc là, on a vu les limites de cette rhétorique, mais je crois qu'on en revient toujours au même problème, c'est que ce vocabulaire de troisième voie est un reliquat de l'époque gaulliste auquel on s'accroche pour essayer de trouver un espèce de slogan accrocheur. Je pense que ça marche peut-être comme marketing de vente d'armes, à la limite, parce qu'un pays voudra diversifier son armement et ne pas dépendre exclusivement d'un fournisseur comme les États-Unis. Mais au-delà de ça, sur le plan politique et géopolitique, je crains que ça ne marche pas. Sur l'affaire de Taïwan, la France et au-delà l'Europe devront choisir. Si jamais un jour il y a un conflit entre la Chine et Taïwan, on ne pourra pas rester au balcon, comme on dit, et rester complètement neutre. Il faudra choisir.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, je n'ai pas oublié que je voulais qu'on parle de francophonie, mais pas tout de suite encore. J'ai cette question, Richard Verly. Est-ce que finalement, d'une certaine manière, la France ne se saborde pas? Vous le dites, l'exception française consiste à résister davantage aux choses que rechercher des performances. Alors, est-ce que donc on se refuse à sortir là aussi de ce déclinisme? Vous dites que les Français ont la religion du déclin, qu'ils sont vus comme un peuple décliniste, avec évidemment des conséquences sur la vision qu'ont les autres de la France. Vous dites que le déclin, l'erreur, la défaite sont d'abord cultivés comme des vertus. Richard Verly.
Écoutez, ça c'est évident. Quand vous regardez la France de l'étranger, ce qui est le propos de notre livre, je le rappelle, c'est-à-dire le livre ne défend pas une thèse. On est allé poser la question à de nombreux observateurs de la France et la question elle est simple. comment vous jugez la France aujourd'hui et est-ce que vous lui faites confiance? Or, qu'est-ce que vous disent ces observateurs? Ils sont fascinés par le poids que prend en France le débat sur le déclin. Pour les observateurs francophones, vous pénétrez dans une librairie, le nombre de titres sur le déclin français, je pense qu'il est quasiment unique dans un grand pays occidental. Oui, il y a une fascination du déclin, à mon avis pour une raison, parce que c'est la meilleure manière de faire porter aux autres la responsabilité. C'est-à-dire, au fond, si le monde est responsable du déclin français, ça veut dire que la France n'en est pas responsable elle-même et les Français non plus.
On est devenu complètement parano ?
On est devenu, je pense, en tout cas les Français, aiment ce rôle de victime. Ce qui évite, évidemment, de se remettre en cause. Si vous êtes la victime d'un ordre international qui vous a échappé, si vous êtes la victime d'une puissance économique, la mondialisation qui vous a échappé, bah finalement, tout ce qui s'est passé n'est pas de votre faute. Et donc, oui, il y a une religion du déclin. Vous savez, on va fêter... Enfin, on va fêter. Fêter le mot ne convient pas vraiment. On va commémorer le 7 mai l'anniversaire de la défaite de Dien Bien Phu, qui est souvent citée, parce que Dien Bien Phu, c'est une défaite magnifique. On en a fait une défaite magnifique, mais c'est quand même une défaite. C'est une défaite extraordinaire qui a sanctionné une série d'erreurs stratégiques. Il y a un livre qui vient d'être publié sur le sujet qui montre ô combien ça a été une accumulation d'erreurs et d'irresponsabilités. Donc oui, ce déclin français, cette passion du déclin français, elle est exploitée politiquement. Elle sert un certain nombre de forces politiques qui, au fond, sont en réaction par rapport à l'ordre multipolaire mondial tel qu'il est. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, et c'est la grande différence, il faut bien le dire, avec un pays comme les États-Unis, où traditionnellement, on le sait, on regarde vers l'avant de manière beaucoup plus positive.
François d'Alençon, votre commentaire ?
Oui, effectivement, je crois qu'il y a le traumatisme des défaites, c'est historique. L'armée française a essuyé défaite sur défaite, 1871, 1940, bon bref, à part 1918... Et depuis Waterloo, c'est pas si glorieux que ça, contrairement à ce que nous disent nos dirigeants, nos chefs militaires.
La France se ment à elle-même. C'est un peu ma dernière question, François d'Alençon.
Il faut regarder les choses en face, et c'est vrai que il y a un effort intellectuel et politique, non seulement de redressement, comme on disait, économique, financier, etc., mais il y a un effort de pensée politique et stratégique, et un effort de débat. Il n'y a pas de débat sur le modèle social français. Il y a des pays qui se réforment. Le Portugal a réduit ses déficits. Il y a des modèles scandinaves dont on peut s'inspirer. Il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Donc, il y a une classe politique figée qui répète les mêmes slogans souverainistes le plus souvent, qu'on soit de droite ou de gauche, et qui fige le débat en se référant à De Gaulle. Mais De Gaulle, il a commencé par redresser les finances publiques quand il est arrivé au pouvoir en 1958.
Richard Verly, en guise de conclusion.
Est-ce que la France se ment à elle-même ? Oui, en partie, mais tous les pays se mentent à eux-mêmes à un moment donné. Tous les pays adoptent un narratif qui leur convient. La difficulté de la France, c'est qu'elle prétend d'un côté être lucide sur le monde, et de l'autre, elle ne l'est pas sur elle-même. Donc voilà le fossé. Donc la France, vous le savez, très souvent les dirigeants français sont accusés par leurs partenaires ou sont soupçonnés de vouloir donner des leçons. C'est la fameuse arrogance française, il y a un peu de ça quand même. Eh bien, à partir du moment où vous donnez des leçons, ou en tout cas où vous regardez le monde, où vous voulez jouer une place dans le monde, une place qui est même au-dessus de votre catégorie, puisque vous n'êtes, comme François l'a dit, qu'une puissance moyenne, eh bien, quand vous placez le curseur à ce niveau, la moindre des choses, c'est que vous ayez vis-à-vis de vous-même le même type d'exigence. Et c'est ça la grande difficulté. S'ajoute par exemple, juste pour en dire un mot, la question de la francophonie. La francophonie est un atout formidable pour la langue française. Est-ce que c'est un atout pour la France aujourd'hui ? Très franchement, quand vous faites le tour des pays francophones, quand vous discutez avec des francophones, ils font aujourd'hui tous la distinction entre leur amour, leur passion de la langue et de la culture française. Mais ce n'est pas nécessairement une passion de la France. Et ça, il faut que les Français le comprennent.
Merci Richard Verly. Je rappelle que vous êtes correspondant France-Europe du média suisse Blick après une longue carrière au Temps. Et François d'Alençon, grand reporter spécialiste des questions internationales et ancien chef du service étranger du quotidien La Croix. Et votre livre, Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, paru aux éditions Grasset. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.